Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mounde.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mardi 6 juillet 2015, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur la malnutrition. Malnutrition qui menace les réfugiés maliens dans le camp de Mbera en Mauritanie. Malnutrition qui menace également les déplacés qui ont fui la guerre et les affrontements dans le nord, précisément dans la région de Tombouctou. Nous allons décortiquer cette actualité avec trois invités. Al-Mahdi Cissé de l'ONG Cri du Cœur, ONG malienne. Yanné Souvano, chef du bureau du Programme alimentaire mondial en Mauritanie. Et Mohamed Agam Ahmad Madoun, journaliste malien installé donc, qui a dû fuir la guerre, qui est dans le camp de Béra en Mauritanie. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Diouara est à la technique.
Studio Tamani.
L'année dernière, en 2014 donc, plus d'un million de Maliens étaient menacés par la malnutrition. Les organisations internationales ont manifesté leur inquiétude qui peinait à mobiliser des fonds. Aujourd'hui, la malnutrition menace à la fois les réfugiés maliens du camp de Mbera en Mauritanie et également les déplacés de la guerre dans la région de Tombouctou. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre du problème de la malnutrition dans ces différents zone. Élément de réponse avec nos invités. Tout d'abord avec ce journaliste qui est dans le camp de Mbera, la malnutrition qui menace les 49 000 réfugiés maliens du camp de Mbera. D'abord, quelle est la situation sur le terrain? Est-ce que la menace est toujours présente, Mohamed Ag Mahdoun, journaliste dans le camp de Mbera?
Oui, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier et de saluer les membres de l'équipe du studio Tamani. Merci d'avoir pensé aux réfugiés. La situation dans les camps de réfugiés, elle est restée depuis septembre 2013 où il y avait eu une sorte de coupure d'approvisionnement. De vivres, de distribution alimentaire, le mois de septembre 2013. Et cette année, au mois de février, il y a eu une distribution à moitié, c'est-à-dire 5 kg de riz et 2 verres d'huile de distribution. Mais la malnutrition, bon, je ne suis pas médecin pour expliquer, mais je sais que j'ai été sur le camp de réfugiés au mois de mars. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans la précarité et c'est dû au fait à un déséquilibre alimentaire. Donc, même s'il y a l'alimentation, quand l'alimentation est déséquilibrée, puisqu'on les a annoncés en février que le mois de mars, ils n'auront pas de distribution, on les a donné aussi en février la moitié de distribution. La ration normale individuelle, c'était 12 kg. Mais au mois de février, on les a donné 5 kg. Donc, on les a dit que le mois de mars et avril, c'était pas prévu, ça s'est passé comme ça. Ils sont restés dans les précarités. Comme l'a signalé aussi un humanitaire du MSF qui m'avait dit que cela va engendrer de graves problèmes d'alimentation, de malnutrition, parce que beaucoup de gens, déjà dans les camps avec la précarité, survivent à travers l'entraide. À travers l'entraide, j'ai rencontré une femme, elle est victime de désactivation, c'est-à-dire on a désactivé son nom. Elle avait 7 enfants. Donc moi j'étais chez elle un matin, j'ai trouvé que elle pilait du riz, elle mettait de l'eau et du sucre, c'est avec ça qu'elle nourrit sa famille. Elle s'appelle Simi Oulette Olar. Dans le bloc 5 du camp des réfugiés.
Les organisateurs entendent très certainement cette situation. Merci beaucoup, Mohamed Ag Ahmadoun. Vous êtes journaliste dans ce camp de Béra en Mauritanie. Alors, nous avons également en ligne Yanné Souvaro, chef du bureau PAM en Mauritanie. Bonjour, monsieur Souvaro.
Bonjour.
Est-ce que vous confirmez cette information d'arrêt de distribution dans les jours à venir?
Alors, je pourrais donner un peu de background pour tout ça. Il faut dire que depuis le mois de mai 2014, la situation est nettement améliorée pour le budget. Pendant toute l'année 2014, on a fait toutes les enquêtes qu'on avait faites avec les partenaires. Le gouvernement de l'UNICEF PAM montre que fin l'année 2014, la situation des réfugiés était la meilleure au début de la crise de 2012. Mais il faut dire que depuis décembre, janvier 2015, on a eu des problèmes financiers et il y a eu des ruptures sur la distribution générale de vivres au mois de février et également au mois de mars, on n'a pas pu faire la distribution. Même, on assiste les personnes plus vulnérables, c'est-à-dire tous les enfants qui sont dans le programme de nutrition, également la cantine scolaire et la distribution qu'on a pu maintenir pour toute personne ciblée. Mois de juin,
Monsieur Souvaro. Je m'excuse de vous interrompre, mais vous êtes à peine audible. Si vous pouvez vous déplacer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour que nous puissions mieux vous entendre.
Ah, voilà. Est-ce que vous m'écoutez maintenant, ça va?
Vous allez vous déplacer un tout petit peu. Je vais vous laisser en lien avec la régie, peut-être. Allez-y, on va voir si ça va.
Ok, je vous écoute maintenant. Est-ce que vous pouvez m'entendre?
Allez-y.
Oui. Alors, vous me l'écoutez?
Allez-y, on vous entend.
Oui. Alors, ça c'est ce que je viens de dire, qu'en effet, la situation pour les réfugiés a été améliorée beaucoup depuis le mois de mai 2014 jusqu'à fin de l'année. Et dans cette période, il n'y a pas du tout la rupture. Et toutes les enquêtes qu'on a fait avec les partenaires montrent que la situation, en effet, de fin de l'année 2014, c'était la meilleure depuis la crise de 2012. Mais c'est vrai qu'on a eu un problème financier. Et mois de février, on n'a pas pu faire le rajout complet pour le TGV. Et également, mois de mars, on a eu la rupture complète pour la distribution générale de vivres. Quand même, il faut noter qu'on a pu cibler toutes les personnes plus vulnérables, c'est-à-dire la cantine scolaire et l'activité nutritionnelle. Et ça continue toujours. La situation actuelle est que moins de juin, on a toujours une rupture sur les céréales. Et moins de juillet, la distribution s'est planifiée pour le 15 juillet. Et il y a quelques commodités qu'on peut donner seulement à la moitié ration.
Donc vous confirmez qu'il n'y a plus de menaces concernant ces 49 000 réfugiés?
Il y a toujours une menace si on ne peut pas maintenir la distribution continue. La situation actuelle, ce n'est pas dramatique, mais il faut dire quand même que si on ne peut pas continuer, s'il y a plusieurs ruptures conséquentes, ça va éventuellement montrer aussi, ça va détériorer la situation nutritionnelle.
D'accord. Merci beaucoup, Yanné Souvaro. Je rappelle que vous êtes chef du bureau du Programme alimentaire mondial en Mauritanie. Nous avons également avec nous Al-Mahdi Cissé de l'ONG Crèdecœur qui évolue dans le nord du Mali. Alors, Al-Mahdi, ça c'était la situation dans le camp de Mbera. Aujourd'hui, quelle est la situation à Tombouctou?
Merci beaucoup et merci à tous nos auditeurs. La situation à Tombouctou, d'une manière générale, n'est pas aussi reluisante, mais il y a des endroits où la situation est plus aiguë que d'autres. La zone où nous avons eu beaucoup de détresse concerne une commune rurale du cercle de Gourmararous qui s'appelle la commune de Séréré. Et je crois qu'avec les événements de janvier à maintenant, pratiquement, il y a eu 19 000 déplacés de leur site sur une presque île. Et suite aux affrontements, parce que cette localité fait l'objet de manière récurrente d'agressions de groupes armés. Et ces gens-là, franchement, la situation est triste. Ils n'ont que vivre. Et même les vieilles personnes ont abandonné leur maison. Maintenant, d'une manière générale, le contexte est dur au niveau de tous les cercles là où les gens ont l'habitude de cultiver. Et avec les attaques, même les foirins sont attaqués, l'activité commerciale fait que il y a plus de circuit de distribution, il y a un enrichissement au niveau des prix des matières de première nécessité. Deux, il y a eu pas d'activité agricole soutenable l'année dernière, et cette année avec le phénomène qui s'est un peu amplifié, et vraiment là on a une crainte lourde de disette. Et nous, la période que nous craignons le plus, c'est au niveau du mois d'août et de septembre. Parce qu'entre-temps, l'hivernage n'est pas bon, les gens n'ont pas travaillé, ils n'ont pas de réserve pour les travaux champêtres. Nous sommes avec le mois de carême, et bientôt, on va dans une période de soudure qui va être insoutenable.
Alors, nous allons retourner dans le camp de Béra avec Mohamed Ag Ahmadoun, vous êtes journaliste. Décrivez-nous la situation durant la période durant la saison des pluies dans ce camp.
La saison des pluies dans ce camp, la situation elle est vraiment précaire, et moi vraiment je suis le seul journaliste qui a écrit sur la sécheresse au nord du Mali, bien vrai que je ne suis pas au Mali, vraiment. Moi, ça me remonte beaucoup parce que, compte tenu de la situation de la sécheresse au nord du Mali, surtout dans la région de Tombouctou et Gao même, où on reçoit des alertes, on voit des images qu'on ne peut même pas regarder.
Précisément dans la région, dans le camp de Mbera, comment est-ce que ça se passe?
Bien sûr, j'arrive. Dans le camp de Mbera, vous avez des gens, des réfugiés, c'est-à-dire qui sont là, la composition du camp. Vous avez des réfugiés qui existent, qui ont quitté le Mali lors des affrontements dans le nord du Mali. Vous avez des réfugiés qui sont arrivés cette année, qui sont arrivés pour des conditions climatiques qui se sont ajoutées aux autres réfugiés. Donc, cela s'explique avec la non-distribution au mois de mars et avril dernier des distributions des rations. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité, moi, c'est une vérité qui a
alors,
été...
Alors, le programme alimentaire mondial n'a pas nié ce que vous dites, mais plutôt évoqué quelques difficultés dues notamment au financement. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause et nous nous retrouverons pour la deuxième partie.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, mais également notre site web www.studiotamani.org où vous pourrez réécouter cette émission si vous le souhaitez. Alors, nous allons retourner en Mauritanie avec Yanné Souvaro, chef du bureau du programme alimentaire mondial en Mauritanie. Alors, Monsieur Souvaro, dites-nous si aujourd'hui vous craignez avec cette période, avec cette saison des pluies qui s'installe progressivement, est-ce que vous craignez que la situation ne se détériore davantage?
Alors, PAM avec le gouvernement et les autres partenaires ont fait les enquêtes sécuritaires alimentaires régulièrement pour tout le pays. Et il faut dire qu'il y a eu la tendance que la situation est graduellement détériorée dans quelques villages spécifiquement et actuellement. À Hodel Sharki, où on trouve Bassikounou en Béra, ça c'est une des zones plus touchées à Mauritanie. Et actuellement, on attend la pluie. Il y a eu quelques pluies à Nema, à notre jour, qui est le capital de Hodel Sharki. Mais la situation peut toujours détériorer avant qu'on ait la propre pluie et les raccords plus tard de l'année.
Alors, aujourd'hui, les couches les plus vulnérables, c'est certainement les femmes et les enfants. Est-ce qu'il y a un traitement plus favorable à leur endroit, dans le camp de Béra?
Non, on ne fait aucun ciblage entre les réfugiés. C'est-à-dire, chaque réfugié, ils ont le droit de ration DGV, chaque ménage. Et en plus, chaque enfant a entre 7 et 59 mois, il peut entrer notre programme de nutrition. Et en plus, il y a les autres acteurs comme l'UNICEF et quelques ONG qui donnent le soutien. On travaille conjointement dans le contexte camp.
Alors, qu'est-ce que vous craignez le plus durant cette période des pluies en cas de rupture de ravitaillement dans le camp de Béra?
Alors, moi, je dis que la rupture de la pluie et le problème climatique, ça touche plus la population mauritanienne. Je crois quand même que dans le contexte, les réfugiés sont mieux fournis que la population mauritanienne qui est beaucoup plus grande que les réfugiés. Alors, il y a la distribution quand même plus ou moins régulière en place pour les réfugiés. Et je ne peux pas confirmer le même pour toute la population vulnérable à Mauritanie actuellement. Mmh. Et pour ça, on travaille avec le gouvernement pour chercher plus de ressources financières pour couvrir tout vulnérable.
Merci Yann Souvaro. Je rappelle que vous êtes chef du bureau du programme alimentaire mondial en Mauritanie. Restez avec nous, cette émission n'est pas terminée. Alors, Almahdi Cissé, vous êtes de l'ONG Crèvecœur, ONG malienne. Aujourd'hui, la donne change. Il évoquait tout à l'heure par Mohamed Ag Mohamedoun, journaliste dans le camp de Mbéra. La situation climatique également fait d'autres vagues de réfugiés. Aujourd'hui, à Tombouctou, est-ce que les populations parviennent à supporter cette saison?
Difficilement, parce qu'à la date d'aujourd'hui, l'hivernage n'a pas encore eu vraiment le rythme que souhaité. Mm-hmm. Et ce qui est encore dramatique dans ces zones, c'est que la vie des gens est intimement liée à celle des animaux. Mm. Et les animaux, je quittais à Gao le 12 et Tombouctou vers le 17 juin dernier. Et c'est quand même terrible. C'est vraiment, cette année, c'est très dur. Parce que vous soyez au nord, sédentaire ou nomade, mm. les gens ont en commun quelque chose. Ils sont tous éleveurs. Mm. Et les gens vivent avec le rythme des pâturages. Mm. Donc à la recherche de pitance et de quête d'eau pour les animaux. Et cette année, les animaux, depuis un certain temps, on en parle très peu. Les animaux sont... Il y a des routes naturelles de transhumance pour les animaux. C'est voilà, avec la rébellion, avec le banditisme, c'est difficile. Donc mm. les animaux n'arrivent pas à bouger comme ça s'est devait. Avant, les animaux du Niger venaient, mm. du Sénégal, du moins du Burkina, ils se retrouvent derrière...
À quoi est dû ce chamboulement?
Ce chamboulement a dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur est dû au facteur de l'homme. Le banditisme, le brigandage. Et le deuxième facteur, il y a certains points d'eau qui ont été sabotés. Et on ne sait pas pourquoi, mais
ça veut dire
qu'il y a des puits où on a mis
des
mines et autres. Donc, mmh. ça fait que et les animaux suivaient un chemin naturel. Mmh. Et ce processus-là est un peu déréglé. Et les gens vivent, les humains n'ont pas à manger, les animaux n'ont pas à manger. C'est quand même une source d'inquiétude. Maintenant, l'autre facteur, c'est l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, à la fois pour les pâturages, il n'y a pas aussi d'eau pour les semences et pour la campagne agricole. Mm. Tous ces facteurs combinés font que vraiment, il y a une menace réelle. Mm. Et l'autre menace, c'est comme ils l'ont dit, c'est en plus des réfugiés, il y a aussi les enfants. Et le fait de ne pas avoir de l'eau potable, de l'eau propre à consommer, constitue aussi des menaces à l'approche de l'hivernage. Mm. qui peut donner des maladies comme le choléra, comme des maladies diarrhées et autres, et le paludisme. Mmh. Parce que les gens, ils se protègent pas. Ils ont le minimum. Certains ont tout laissé, ils ont tout abandonné, et c'est pas facile.
Mmh. Alors aujourd'hui, le lac Faguibine est comme le grenier aujourd'hui de la région de Tombouctou. Mmh. Est-ce que les cultivateurs, les paysans parviennent à mener correctement leur...
Difficilement. Dans une localité, il y a des phénomènes de brigandage. Mmh. Je vous donne le cas d'un village où on nous a dit en l'intervalle de 3 mois, même les motopopes ont été
enlevés.
Mmh. Et ceux qui ont de l'argent sur une pinasse, les forêts, certains ont les prélevé 50 millions, le cumul avoisine 400 et quelques millions. Et c'est trop. Et ça fait dire que vraiment, sinon, en période normale de sécurité des cultures, vraiment, le lac peut quand même. Le Tombouctou a beaucoup avancé en termes d'aménagement. D'aménagement agricole. Mais ces temps-ci, même ceux qui ont envie de travailler n'ont pas le moral pour travailler. Donc, c'est vraiment des sources d'inquiétude et qui font que la sécurité alimentaire, elle est vraiment compromise. Et la période que nous craignons, je le redis encore, c'est le pire reste à venir. Si déjà ceux qui sont sur les réfugiés n'ont pas d'accompagnement, ceux qui restent encore, le peu qu'ils ont sont finis. Et avec le contexte d'insécurité généralisée, avec le coupeur de route, ça veut dire que vraiment les signaux ne sont pas rouges, que Dieu nous en préserve.
Merci beaucoup, Almahdi Cissé. Je rappelle que vous êtes de l'ONG Cri du Cœur. Alors, Yanné Souvaro, vous êtes chef de l'antenne PAM de la Mauritanie. Aujourd'hui, est-ce que les populations, les 49 000 réfugiés de Mbera ont d'autres moyens d'alimentation autres que le canal du PAM?
Pas vraiment. En principe, ils sont dépendables de l'assistance qu'on leur donne. Il y a quelques activités de moyen existence. On essaye de soutenir aussi les maraîchages et petites activités, mais il faut aussi comprendre que c'est une petite île, c'est 50 000 de personnes, un millier de desserts. Alors, dans ce contexte, les autres activités de moyen existence sont assez limitées.
Alors, Mohamed Ag Ahmadoun, est-ce qu'il y a d'autres canaux d'alimentation, d'autres moyens de subsistance pour les 49 000 réfugiés de Mbera?
À mon avis, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que au camp des réfugiés, les gens, c'est-à-dire... leur inquiétude, c'est la sécurité et la sécheresse. Donc, c'est l'entraide. Les gens s'entraident. Celui-là, par exemple, il a la sauce. Celui-là, il a, comment dirais-je, lui dirige. Donc, ou bien celui-là, il n'a rien. C'est les autres qui les prennent en charge. Donc, c'est la situation est dans l'impasse. Donc ça a été déjà prévenu depuis le mois de février des humanitaires me l'ont confié au camp des réfugiés que le mois de mars et avril vont affecter, c'est-à-dire la non distribution des rations alimentaires vont affecter la malnutrition chez les enfants. J'étais une fois au MSF. On enregistre au moins 30 à 40 enfants malnutris. Donc quand il va dans le centre de réhabilitation nutritionnelle du centre MSF, tu ne vois que des enfants malnutris.
D'accord. Alors, merci beaucoup Mohamed Ag Ahmadoun. Vous êtes journaliste dans le camp de Mbera. Alors, Yanné Souvaro du PAM de Mauritanie, est-ce que le PAM a un programme d'aide d'urgence pour les enfants malnutris et les personnes malnutries de façon générale dans ce camp?
Oui, ça c'est correct. Ça c'est correct. On a lié avec notre partenaire aussi à MSF. Et il faut dire que après les ruptures de mois de février et mars, on a noté une petite augmentation sur les nouvelles admissions dans les activités nutritionnelles, mais quand même, ce n'était pas rien qui était niveau scientifique qu'on pourrait dire que la situation nutritionnelle est détériorée. Mais ça c'est clair quand même qu'il y a corrélation entre les ruptures de distribution et le nouvel cas d'admission dans le centre de la nutrition.
D'accord. Merci beaucoup Yanné Souvaro. Vous êtes du PAM de Mauritanie. Alors Almadi Cissé, le PAM du Mali, le programme alimentaire mondial, l'antenne du Mali donc, annonçait l'assistance de 29 000 personnes dans la région, dans la zone de Gourmara-Rousse, des personnes qui ont fui les affrontements. Est-ce que aujourd'hui ces personnes sont toujours assistées par le PAM? Vous avez des nouvelles?
Je crois que le travail d'identification a commencé. Mais ce qui est le plus important dans ces localités, comme les intervenants passés l'ont souligné, C'est que souvent, c'est des prévisions. On donne, on commence. Mmh. Les gens commencent à s'y habituer. Et un beau jour, on vous dit, il y a une rupture. Mmh. C'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'eux aussi dépendent d'autres moyens, mmh. d'autres bonataires. Et c'est vraiment une. Il y a toujours. Nous sommes toujours dans un cercle infernal et vicieux. Et c'est dommage. Aujourd'hui, notre vœu, c'est que les gens arrivent. En tout cas, ceux qui ne sont pas réfugiés, malheureusement, nous déplorons ce qui se passe au niveau des différents camps. Mais ceux qui sont au Mali, qu'on puisse avoir une alternative. Une alternative. Et je crois que c'est possible sans qu'ils puissent vraiment être dépendants à 100% de l'aide extérieure.
Mmh. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait? Vous êtes une ONG locale. Est-ce que vous êtes satisfait de l'apport du gouvernement par rapport à ces populations?
Non, je dirais non. Vraiment pas satisfait. Satisfait. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de voix étrangères qui font le plaidoyer de ces populations et non à l'intérieur. On a, heureusement, je profite pour saluer les différentes interventions et les débats que vous animez au niveau du studio Tamani pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Si vous n'êtes pas dans le milieu humanitaire, tout se passe bien comme si au Mali, il n'y a pas de problème. C'est ce qui est dommage. Que ce soit les Maliens d'ici, de Kaï, de Tombouctou, Gao, ailleurs, nous avons des réels problèmes de malnutrition. Et sans l'apport de partenaires, des ONG ou autres, on va très peu, l'État malien s'engager. Ce que nous voulons, c'est vrai que nous avons des revenus modestes, mais gérer, c'est prévoir. Aujourd'hui, nous savons que à la suite de ces différents événements, si on fait une proposition, vraiment, il y aurait des cas dans ça. Dans 5 ans, dans 3 ans, nous aurons à gérer ça. Ça, c'est notre moyen. Si on n'a pas de moyens aussi, qu'on ait des mécanismes de plaidoyer pour informer les partenaires à venir agir. Mais ce qui est encore pire et déplorable, c'est qu'au Mali, moi, je suis dans le milieu des humanitaires, c'est que chacun fait comme il veut. Il n'y a pas une véritable coordination, excepté celle que les ONG elles-mêmes ont mise en place. Et souvent, dans les régions, vous voyez, le préfet, il vient, c'est juste pour recevoir le cérémonial, remercier. Mais l'État doit pouvoir donner des directives, doit anticiper et donner un canevas de travail et d'intervention. C'est ce qui est malheureusement déplorable.
Alors aujourd'hui, quand l'État dit qu'il n'a pas assez de moyens, quelles sont les stratégies, les pistes de solutions que vous pouvez lui donner?
Bon, les pistes de solutions, c'est d'abord connaître les problèmes. Il faut pas jouer à la politique de pompiste, éteindre, gérer les crises à coups. L'État malien est dans une logique de gestion des crises. N'anticipe pas sur les causes. C'est ça le vrai drame. On sait que l'année dernière, la campagne agricole n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'on fait? On connaît les populations, on connaît les poches de disette, on connaît les communes vulnérables. Qu'est-ce qu'on fait pour anticiper? Et on connaît aussi les périodes de soudure. Mais ça ne se fait pas. Et quand ça se fait aussi, c'est quand d'autres interviennent, critiquent, et puis bon, on fait quelques actions trompe-l'œil à la télé, et puis c'est ça quoi.
D'accord. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre la dernière partie de cette émission.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur la malnutrition qui menace les 49 000 réfugiés du camp de Mbera, mais également plusieurs populations, plusieurs milliers de personnes dans la région de Tombouctou. Et nous avons 3 invités pour débattre de cette question, précisément sur la situation des réfugiés dans le camp de Mbera. Ils sont 49 000 Maliens réfugiés dans ce camp, des réfugiés qui ont fui les affrontements dans le nord du Mali, mais également la situation de sécheresse dans les différentes régions du nord du Mali. Nous avons en ligne avec nous Yanné Souvaro, chef du bureau de l'antenne PAM, Programme Alimentaire Mondial de la Mauritanie. Alors, Monsieur Souvaro, vous avez évoqué tout à l'heure la situation des femmes, notamment leur appui en termes de maraîchage. Aujourd'hui, est-ce que c'est un moyen qui permet d'autonomiser cette couche?
Bon, je ne sais pas si ça pourrait être une seule activité, mais je crois qu'entre les autres activités, c'est une additionnalité. pour potentiellement gagner de l'argent pour diversifier le diète, mais ça ne peut pas remplacer bien sûr toute l'autre nourriture ni couvrir tous les besoins de 50 000 personnes.
Est-ce que vous les appuyez dans ce sens?
Pardon?
Est-ce que vous appuyez les femmes dans leur activité de maraîchage?
Cette activité est faite par l'ONG et notre partenaire ACER, c'est-à-dire actuellement, les femmes ne travaillent pas directement avec eux.
Alors, qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir, dans un avenir très proche, pour que les problèmes évoqués, notamment l'arrêt de distribution des aliments, ne puissent plus survenir? Est-ce que c'est un véritable problème de financement que vous avez, ou bien est-ce qu'il est résolu?
Courte, ça c'est bien sûr la situation financière qui nous permet d'avoir justement de vivre pour toute cette population. Mais il faut aussi dire qu'on travaille sur l'enquête conjointe avec ACR pour regarder un peu la stratégie pour 2016-2017. Et quand nous avons le résultat, on travaille avec tous les partenaires pour faire un plan opérationnel. Et ça, c'est clair qu'il faut voir un peu comment on veut travailler dans la suite. Selon notre information, quand on parle avec les réfugiés, ils croient que les conditions ne sont pas prêtes encore pour être en Mali, même qu'il y a eu le traité de paix signé. Alors, il faut voir un peu comment adresser cette problématique dans la situation si les réfugiés restent un peu plus longtemps. Parce que ça, c'est clair que il y a déjà la fatigue par bailleur. Et il y a beaucoup de compétition par les autres crises comme Centrafrique, la Syrie, etc. Alors, on essaie de voir les possibilités alternatives, mais ça ne change pas quand même la réalité qu'il y a 50 000 de personnes qui doivent manger et on ne peut pas remplacer ça non plus avec maraîchage, soit autre production locale.
Alors, l'année dernière, le Programme alimentaire mondial évoquait un problème de financement. Est-ce que cela, la situation d'aujourd'hui est la conséquence de ce problème de financement, de cette difficulté de mobilisation de financement de l'année dernière?
Oui, alors je viens de dire qu'on a eu la rupture. L'année dernière, en effet, on a fait un peu mieux. Entre le mois de mai et décembre, on n'a pas eu de rupture. Mais depuis de février et mars, on n'a pas pu maintenir la distribution continue. Et actuellement, aujourd'hui, on a reçu seulement 50% des besoins pour 2015. Et on devrait recevoir urgentement un autre 4 millions qu'on pourrait couvrir les besoins qui resteraient pour 2015.
D'accord. Merci beaucoup, Souvaro. Yanné Souvaro, je rappelle que vous êtes chef de l'antenne du Programme alimentaire mondial de la Mauritanie. Alors, Mohamed Ag Ahmadoun, vous êtes journaliste dans le camp de Mbera. Aujourd'hui, est-ce que vous avez de l'espoir quant à l'assistance des populations dans ce camp?
De l'espoir, bon, là, tout est dit par le coordinateur du projet PAM en Mauritanie. Bien vrai que la situation, les gens essayent de se débrouiller un peu avec comme les associations féminines sur le maraîchage. Donc les petits commerces. Mais la situation, vraiment, il faut qu'on soit vraiment honnête, la situation, elle devient de plus en plus précaire. Elle devient de plus en plus précaire parce que les gens, les réfugiés du Nord, c'est-à-dire ils ont fui, c'est des gens qui ont fui, qui ont quitté chez eux, c'est-à-dire ils n'ont rien pour... Si ce n'est le soutien des ONG comme le HCR, le PAM, le MSF, l'Action contre la faim, qui donne qui organise des projets de régénérateurs de revenus à travers les sommes qu'on donne pour faire de la boucherie, pour la maison des artisans, pour les femmes, pour faire le maraîchage, pour la couture. Mais on sent que c'est l'entraide qui sauve la survie au camp.
Alors Mohamed,
en dehors de ça, il y a rien.
Mohamed, est-ce que depuis la signature de l'accord, le parachèvement du processus de paix, est-ce que depuis cette date-là, le gouvernement malien, vous le sentez sur le terrain? Est-ce qu'il y a eu des missions qui vous ont rendu visite, des missions du gouvernement malien qui vous ont rendu visite dans le camp de Mera?
Non, on a reçu des missions des gens, des parents que le gouvernement a envoyés, qui ont été reçus au camp comme des parents, mais le gouvernement malien en tant que tel, Zahabi, qui est parti, je pense, au mois d'avril ou bien au mois de mai.
Le ministre de la Reconstruction des régions du Nord et de la Réconciliation.
Voilà, il a été reçu à Bassikounou. Il a été reçu à Bassikounou pour des raisons de sécurité. Il y a le président mauritanien, son Excellence Mohamed Abdelaziz, qui s'est inquiété de la situation. Il s'est déplacé au mois de mars jusqu'au camp d'Embarra pour rassurer les réfugiés. Donc ça veut dire déjà que ça se sent au niveau des autorités mauritaniennes que la situation vraiment est précaire au niveau des réfugiés. Donc, le nord du Mali, mon compatriote, El Mahdi, lui, il parle de Gourma, de Rarous. Moi, je ne l'entends pas parler de la région, du cercle de Gondam, Kinaïcha, Essakan, Razelma, où les gens ont fui. Les gens, ils nomadisent vers la frontière mauritanienne. Nomadisent, ils ont quitté à cause des problèmes climatiques. Donc ça veut dire que l'alarme est lancée depuis le mois de mars et la situation est très très précaire. Mais heureusement maintenant il y a de l'espoir parce qu'il y a des pluies ce week-end à Gargando, à Tinaïcha. Donc les gens, c'est-à-dire ils ont senti un ouf de soulagement. Mais la situation reste précaire parce que compte tenu de la situation, de pluie, comment ça se passe, on a peur que ça soit des pluies en boule de neige ou bien sporadiques.
D'accord. Merci beaucoup, Mohamed. Je vais donner la parole à Al Mahdi, qui nous a donné une vision plus globale de la situation, mais avec ce que vous venez de dire, il va peut-être nous dire plus en détail ce qui se passe sur le terrain. Al Mahdi.
Merci. Je profite de faire un coucou à mon confrère et à tous nos compatriotes qui sont en train de nous écouter. En fait, c'est pas que c'est une omission. Non, la situation de la commune de Serré, c'est une situation récente. Et Gundam, Diré, Tinaïcha et toutes les localités, Menaka, Nsongo, dont il a parlé, et dont on a toujours parlé souvent même ici, on continue à les déplorer. La situation partout au nord n'est pas réluisante. Et c'est vraiment une situation extrêmement grave. Et quand je parle du pâturage, ce n'est pas pour la commune rurale de Serré. C'est l'ensemble de ces communes. Et j'ai vraiment une pensée pour les réfugiés parce que, par expérience, j'y étais voir dans certaines localités. Même quand on quitte de sa maison, on perd une partie de sa dignité. Dans des conditions très difficiles, avec la chaleur, le vent qui souffle, et souvent sous des tentes en plastique, et à 40 degrés, c'est
compliqué.
Pas, c'est compliqué. Maintenant, nous prions que la situation s'améliore pour qu'ils puissent regagner, rejoindre leur domicile, regagner le bercail et qu'on puisse ensemble redéfinir pour que c'est une situation qui n'honore pas le Mali. Et dire que vous avez des réfugiés dans un pays frère, c'est une situation très difficile.
Très difficile.
Maintenant, comment travailler au niveau des esprits et des cœurs pour qu'on puisse vraiment amorcer ensemble? Parce que on a beau s'entretuer, nous sommes tout avant tout maliens et ce qui est essentiel, c'est qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre. Il faudrait bien qu'on ait le courage de le reconnaître et d'accepter de partir de l'avant.
Merci Al Mahdi. Alors, Yanné Souvaro, vous êtes chef de l'antenne PAM de Mauritanie. Aujourd'hui, est-ce que ces camps, ces différents camps de réfugiés, de Mbera, de Bassikounou, sont prêts aujourd'hui à accueillir d'autres populations qui fuient notamment la situation de sécheresse? Monsieur Souvaro?
Oui, je suis là, vous m'écoutez?
Oh oui, allez-y.
Allô?
Allez-y.
Oui. Alors, ça, c'est une très bonne question.
bien sûr à faire avec tous les partenaires. On est préparé d'accueillir les réfugiés qui arrivent vers la Mauritanie. Il y a l'espace, mais le problème est comment mobiliser les ressources additionnelles. C'est-à-dire, s'il y a plus de réfugiés, on a plus de difficultés de fournir tous à manger. Mais bien sûr, on suit la situation ici. On lie bien sûr avec notre collègue au Mali et on suit la situation en petit mois.
Alors, aujourd'hui, toujours cette même question, est-ce que les populations, les réfugiés actuellement de Mbera, Mohamed, sont prêts, sont dans l'esprit de pouvoir cohabiter avec d'autres réfugiés?
C'est-à-dire, reprenez, s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu.
Il y a une nouvelle vague de réfugiés qui fuient, qui ne fuient pas la guerre, mais plutôt la situation de sécheresse dans le nord du Mali. Aujourd'hui, est-ce que ces populations, ces réfugiés de Mbera, peuvent cohabiter avec d'autres réfugiés?
Bien sûr, ils les accueillent. Vous connaissez le comportement des populations du nord du Mali, c'est des gens qui ont un sens d'hospitalité, de solidarité, malgré la précarité. Et aussi, il y a aussi un phénomène d'afflux de migration qui concerne des populations belles qui fuient je ne sais pas quoi.
Qui fuit la sécheresse et la guerre aussi.
Et la guerre aussi, qui s'ajoute à ces réfugiés climatiques. Donc, il y a tous ces tris, ils sont accueillis par les réfugiés déjà installés au camp depuis 2012. On a même vu des photos sur Internet. Moi, j'ai même reçu certaines photos. Des gens qu'on accueille, des nouveaux réfugiés, ça a été relayé par RFI tout récemment, là. Donc, les réfugiés, ils s'entraident, ils essayent de se battre. Bien, c'est des choses que Dieu amène, c'est des contraintes que Dieu amène.
Alors donc, Mohamed, quand vous dites ces peuls qui fuient je ne sais pas quoi, nous les peuls on suit les traces de notre bétail, ça c'est obligé.
Bon, je ne sais pas, en tout cas quand même, il y a la question peuls, je n'aimerais pas beaucoup me prononcer là-dessus parce que je suis pas un politicien pour
non,
parler
y a, de ça, y a, mais c'est y a, vraiment... Il n'y a aucune affaire de politique. Tout ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est que toutes ces populations, dont y compris vous, puissiez regagner le bercail en toute quiétude. Merci beaucoup, Mohamed. Je rappelle que vous êtes journaliste dans le camp de Béra. Un grand merci également à Yann Souvaro, chef du bureau du Programme alimentaire mondial en Mauritanie. Et un grand merci à Alma Hadi Cissé, qui est avec nous dans ce studio de l'ONG Écrit Cœur, ONG malienne, qui évolue dans l'humanitaire, dans les différentes régions du nord du pays. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Douara était à la technique. Petit Ndiara à la régie vidéo. Ousmane Diadié Touré à la réalisation. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.